Good morning, Everett. Time for Drug and Roll.
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 Oh yeah, Drug and Roll.
L'émission stupéfiante sur la fusion de la musique et des consommations de drogue.
Hey, bonjour à tous. Bienvenue dans Drug and Roll. Voilà, l'émission stupéfiante sur les drogues et les styles musicaux, hein. Bonjour Mireille, comment vas-tu?
Bonjour Jérémy, ça va très bien.
Ça va très bien, c'est sûr ça, sur un direct comme ça, c'est...
Ouais, bah c'est stressant. Hein,
mais... Ah bah oui, faut qu'on... Voilà.
Pas grave.
Faut qu'on arrive à se détendre en fait, tout simplement.
On va boire un coup et puis ça ira mieux.
Puis on est là pour diffuser de la musique, pour retracer un peu cette année, un peu. C'est une émission un peu spéciale, c'est la 15e.
Voilà, c'est la 15e émission et la dernière aussi. Donc voilà, on a invité tous les gens qui ont participé aux différentes émissions pour pouvoir... Voilà, de faire le tour un peu de tout ce qui a été fait.
Donc il n'y a pas tout le monde parce que 14 émissions quand même.
Voilà, c'est voilà. Ça. Donc de toute façon, il n'y a eu que 6 invités au cours des émissions. Et là, du coup, on en a 4 ça, qui
d'accord.
Sont là aujourd'hui.
Eh ben nickel. Est-ce qu'on a nos fidèles?
Bien sûr, bien sûr. Ah,
donc, Florence est là. Bonjour Florence. Comme on t'entend pas bien Florence parce que c'est normal, je n'ai pas mis ton micro.
Ah d'accord.
C'est pour
pas
ça.
Moi qui parle. Ça va, pour une fois.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, ouais.
Bon, bah, nickel. Ah
ouais. Après l'été, les vacances, tout va bien.
Bon, bah nickel, c'est parfait. Jean, es-tu là?
Et oui.
Bon, bah nickel, et notre chroniqueur fétiche de l'émission?
Oui, je suis là.
Bon, bah c'est impeccable, c'est Jean-Paul.
Exact.
Est-ce que t'es venu avec des petites chroniques encore aujourd'hui?
Je crois.
Bon.
Oui, deux chroniques.
Eh bah nickel, on s'écoutera ça au cours de l'émission. Je vais jouer l'impoli, les invités vont se présenter au cours de l'émission, mais vous pouvez déjà dire bonjour, il y a Yann, il y a Greg, il y a Néné, donc voilà. Bonjour les gars, merci d'être venus.
Salut.
Et,
bonjour.
Et vous serez amenés à prendre la parole forcément tout au cours de cette émission. Voilà. Mireille, je te propose de rappeler un peu le concept de l'émission, pourquoi on a fait ça et qu'est-ce qu'on dit dedans quoi.
Alors le concept de l'émission, c'était de pouvoir faire un parallèle entre les consommations de drogue et l'évolution de la musique. Alors on est parti surtout des États-Unis, hein, avec voilà, on est parti des gospel, voilà, des chants,
blues,
voilà, dans les champs de coton, etc. Donc pour arriver au rap, à la techno,
à des musiques
voilà,
plus actuelles,
à des
on va
musiques
dire.
Plus actuelles, et de voir en quoi voilà la parfois la drogue avait pu comment
jouer un rôle.
Jouer un rôle, voilà, dans cette musique. Voilà.
Eh ben, très bien. Donc aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, elle est, comme on l'a dit, un peu spéciale.
Voilà. D'abord, on va passer que des musiques françaises, que des chansons françaises. Alors que jusqu'à maintenant, dans toutes les émissions, c'était soit des chansons anglaises ou beaucoup américaines. Et voilà, donc aujourd'hui, on a fait le choix de dire, bah, en France aussi, hein, on a aussi voilà, tout un lot de chanteurs voilà, et qui ont écrit sur ces thèmes-là. Et donc voilà, et puis voilà, puis c'était aussi pour faire des petits rappels, voilà. Hein, de,
très très bien.
Par rapport aux consommations, etc.
Et bah, ça marche. On s'écoute un petit morceau? Est-ce que Jean-Paul...
Jean
présente ce petit
voilà,
morceau.
Voilà, Jean-Paul va le présenter. Voilà.
Il a... Oui, alors ce morceau, c'est très court. C'est une réclame qui date des années 60 et qui vante l'alcool.
Ah, bah bien.
Librement. Eh oui. Et ce morceau-là sera interprété par le groupe Zakoufen, qui est d'Evreux, dirigé par Gérard Delou.
D'accord. Eh bah, bien, on s'écoute ça de suite.
Aussi je crie bien haut. Vive le Saint-Anneau.
rappeler ce titre?
Sans anneau.
Sans anneau. Ok, très très bien.
Avec l'âme.
Voilà, donc le groupe des Acouphènes, juste pour rappeler comment il y a Gérard Deloup qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est, il a un contrat là, donc il fait de la musique à l'extérieur. Comment c'est donc Gérard Deloup hein, qui dirige le groupe Acouphènes. Et donc on a repris tout un certain nombre de vieilles chansons comme ça. Hein, qui... Et donc il y en a certaines qui parlent de l'alcool, d'autres stupéfiants, voilà, etc. Donc, et notamment des chansons de Boris Vian aussi. Voilà.
Donc, je crois que c'est une forme d'auto-promotion parce que Mireille voilà, chante au sein du groupe Les Acouphènes.
Mais je pense que c'est pas le but du tout de l'émission.
quand même.
C'est quand le prochain concert?
Prochain concert, c'est quand? Mois de novembre, c'est ça?
22 novembre au Clos-au-Duc.
Ah voilà, merci Jean-Paul. C'est
dit. Un petit rappel important, Mireille?
Voilà, donc on va faire un petit rappel par rapport aux consommations de drogue hein, pour bien spécifier que. Le fait de consommer des drogues ne fait pas qu'on va devenir un génie. Hein. Alors on sait qu'évidemment à certaines époques, dans les années 70 par exemple avec les consommations de LSD, ça a quand même permis d'inventer un nouveau monde psychédélique avec tout un potentiel créateur aussi bien au niveau de la musique que du graphisme par exemple, etc. Donc ça, ça a ouvert comment tout un univers créatif.
Des portes, ça a ouvert.
Voilà, des portes, voilà. Pour parler des Doors, par exemple. Le groupe phare de l'époque. Et voilà, où ils ont pu, voilà, du fait de ces consommations de drogue, avec les hallucinations que ça pouvait apporter, à amener tout un univers différent. En même temps, il fallait quand même avoir un terrain créatif hein, pour pouvoir explorer et exploiter ça. Et si on n'est pas un génie au départ, c'est pas parce qu'on va prendre des drogues qu'on va devenir forcément formidable. Quoi, hein. Et donc des personnes comme Charlie Parker ou Jimi Hendrix, c'est, au départ, ils avaient bel et bien un potentiel hein, créatif très important. Et c'est pas les drogues qui alors les drogues ça a pu eux leur servir pour peut-être calmer un peu des angoisses hein, qu'ils pouvaient avoir mais il y a beaucoup évidemment d'artistes hein, qui ont des personnalités borderline et du coup on essaie d'apaiser leurs angoisses hein, en prenant les produits. Et ça, le fait de consommer des drogues permet parfois hein, d'aller au-delà hein, de ses limites et de faire des choses peut-être qu'on n'aurait pas osé faire. Et puis il faut quand même rappeler que pour tous ces artistes, le fait des tournées, des longs trajets en bus, hein, quand ils traversaient tous les États-Unis, des fois pendant des mois, hein, ils traversaient dans tous les sens, voilà. C'était long, hein, en tout cas. Il y avait pas beaucoup de sommeil, beaucoup de stress pour les concerts, la pression des managers, des fans aussi, etc. Des agents musicaux aussi, voilà. Et puis avec une vie sociale et familiale, souvent difficile parce qu'ils voyaient pas beaucoup leur famille, etc. Mmh. Donc ça a amené quand même beaucoup de tensions et donc qui a amené quand même un terrain propice hein, pour la consommation de drogue. Une drogue de tout poil, hein, que ce soit. On parle aussi bien, que ce soit l'alcool, que ce soit le cannabis, que ce soit l'héroïne ou d'autres produits. Hein. Donc voilà.
Complètement. Un petit chronique pour nous.
Voilà. Jean-Paul nous a fait une petite chronique. C'est extrait d'un livre de Francis Hofstein qui s'appelle La drogue du jazz, hein, mais qui peut s'étendre à d'autres consommations de produits et qui est valable pour plein de choses.
Il est la mémoire de l'histoire dans la chronique éclectique de Jean-Paul.
Alcool fait maison pour les bluesmen du sud profond et, à défaut, bière et vin, whisky de contrebande et cannabis dans les villes de la prohibition. Héroïne et cocaïne au temps du bebop. Tabac pour tout le monde. L'usage des toxiques dépend des circonstances, des moyens, des modes, et son association avec le jazz est d'abord un cliché que le cinéma et la popularité de Charlie, de Chet Baker ou d'Art Pepper ont largement contribué à propager. Car l'ensemble de la société américaine est infestée par les toxiques, puisqu'elle repose sur une idéologie de la satisfaction et donc de l'éradication du manque, qui ne peuvent qu'encourager leur diffusion.
Propos de stars, articles, anecdotes, on vous dit tout dans
la chronique éclectique de Jean-Paul.
Excusez-moi pour cette petite coupure un peu brusque. Nous sommes toujours dans Drug and Roll, le parallèle entre les drogues et les styles musicaux. On est dans cette dernière émission en direct. Voilà. On va parler avec Greg. Bonjour Greg, on t'a pas encore présenté, comment vas-tu ?
Salut Jérémy, salut à tous. Ben, ça va très très bien, je suis très très content de me retrouver avec vous aujourd'hui. Merci Mireille pour l'invitation, c'est un plaisir, vraiment.
Donc Greg, qu'on rappelle, qui est venu dans l'émission pour nous parler de la techno.
Ouais, et des psychostimulants en particulier associés voilà, avec les mouvements type free party, techno en général. Ouais.
Exactement, voilà. Donc on va pas refaire l'émission bien évidemment. Non. Donc là aujourd'hui t'es venu nous présenter un morceau que tu as choisi. Donc c'est un peu le but de l'émission, que les invités choisissent un morceau qui s'en parle.
C'est ça, c'est ce que Mireille m'avait annoncé en me proposant quand même un choix assez limité de chansons, notamment celle de Florent Pagny, n'importe quoi. Donc j'ai
pas croire tout ce que Grégory raconte.
J'ai pas adhéré sur le moment, insistant sur le fait qu'il fallait une chanson française, donc ça a été voilà, une recherche aussi importante. Spontanément m'est arrivé Mano Solo, en même temps c'est assez, comment dire, assez connu et en même temps extrêmement intéressant. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, ce serait intéressant de se pencher sur ce sujet-là. Donc j'ai pensé moi surtout à une chanson de Serge Gainsbourg, qui est pas forcément la plus connue. On l'a connu par rapport à une chanson sur la drogue qui était comme Aux enfants de la chance, qui est un petit peu pato, un petit peu voilà, hein, c'est pas forcément un petit peu très politiquement correct aussi, compte tenu de la relation de Monsieur Gainsbourg avec les produits. Il y a une chanson surtout que je souhaitais diffuser aujourd'hui, qui est My Lady Heroine, et qui comment dire exprime un lien évident entre la relation au produit et la relation amoureuse. Et en ce qui concerne la relation à la drogue, il s'agit vraisemblablement aussi d'une relation amoureuse. Voilà, d'où la difficulté à un moment donné de mettre une distance quand l'entourage, les amis, les associations de soins, n'est-ce pas Mireille, essayent de favoriser une distance avec les produits.
Et ce morceau s'appelle
My Lady Heroine.
Persan. mal, hein, ta chanson. Elle est...
Comment ça, pas trop mal?
Je connaissais pas, mais plutôt bien. Hein.
Non, allez, ouais, non, j'avais trouvé en la découvrant cette chanson intéressante. Voilà, parmi plein d'autres chansons, évidemment, mais c'est vrai que, ouais, elle est chouette.
Bon, et ben nickel.
C'est encore une époque où Gainsbourg chantait, quoi. Il y avait des vraies mélodies.
Et paf!
Et paf!
On se fait une petite question.
Voilà, tu veux poser la petite question?
Je t'en prie. Voilà, vas-y, Mireille.
Voilà. Alors, voilà la question qu'on voulait poser, parce que là, il y a beaucoup de musiciens parmi nous. Et c'était pour savoir si, bah, parmi les autres musiciens que vous avez pu côtoyer, si vous avez rencontré d'autres musiciens avec des problèmes d'addiction. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces musiciens, addicts? Alors que ce soit addict à l'alcool, hein, ou à l'héroïne, ou d'autres produits.
Salut Néné. Salut Jérémy.
Salut.
En ce qui me concerne, oui, j'en ai connu un paquet, quoi. C'est il y a longtemps que je fais de la musique. Il y en a pas mal qui sont restés sur le carreau. On n'a pas revu. J'ai des souvenirs.
C'est-à-dire des overdoses.
Ou qui sont morts après de maladies forcément liées aux excès qu'ils avaient fait, quoi. Entre autres, je pense par exemple au guitariste des Dogs, Dominique. Je viens avoir fait un concert avec eux, ils tenaient plus debout sur scène, quoi. C'était vraiment pathétique, quoi. Alors, c'était des mecs qui avaient du talent. Je parle des musiciens régionaux, locaux.
Ouais, ouais.
Des musiciens que j'ai côtoyés personnellement, avec lesquels j'ai joué, oui, qui ont vraiment morflé grave, quoi. Et qui, par force des choses, qu'on était obligé d'arrêter parce que c'était où ils restaient scotchés. Et puis. Oui, il y a pléthore de musiciens. Parce qu'effectivement, on dit toujours la drogue, musique. Donc, c'était une époque aussi où on en prenait parce que c'était. Fallait le faire, quoi. Sinon, t'étais un peu.
C'est-à-dire, l'époque, c'était dans quelles années?
Les années 70, les début 70, même les années 80.
J'ai fréquenté
beaucoup de musiciens dans les années 80. Ça se défonçait, mais grave, quoi. Sérieusement, quoi.
Tu disais que si tu prenais pas de drogue, là. T'étais vu un peu.
Ouais, puisqu'on nous disait Mireille tout à l'heure en préambule, là c'était on a l'impression qu'on allait être dégénie, quoi.
D'accord, ah oui. Il y a quand même cette sensation, c'est vrai qu'on l'a évoqué
complètement
tout au long de ces émissions.
Aux anciens qu'on a eus qui étaient effectivement dégénie, quoi. Mais qui n'avaient pas besoin de ça pour l'être, quoi.
Voilà, tout le monde voulait devenir un Jimi Hendrix, c'était pas possible pour tout le monde, quoi.
Mais donc, personnellement, j'ai côtoyé beaucoup de musiciens qui se défonçaient, quoi.
D'accord.
Donc là, c'était plus dans le milieu du rock, quoi.
Souvenir de Jade Viau, par exemple. Jade Viau au festival à Évreux, qui avait un des deux chanteurs, je ne sais plus lequel, qui avait pris des champignons, mais une tonne de champignons qui tombaient de la scène, 3 mètres de haut sur le béton, qui était hospitalisé en urgence, quoi. Qui n'a pas pu finir le concert. J'ai des souvenirs de Daniel Dark, il n'y a pas très longtemps, au festival de rock, qui était défoncé, mais qui est mort peu de temps après. Toi.
Bah, il en est mort, hein.
Il en est mort. Des gens comme Bachung, qui était défoncé perpétuellement, quoi. Ouais. Qui était dépressif. Mais en même temps, je voudrais dire que le milieu de la drogue n'est pas lié, forcément, vous le savez tous, à la musique. On sait que tous les politiques dans le business, ils se défoncent tous, ils marchent tous à la coke. Tous nos politiques hyper speed, là, on sait bien qu'ils sont tous défoncés, quoi. Donc,
ouais, bien sûr. Bah, l'émission, c'est ça aussi, c'est pas faire l'apologie. Maintenant, c'est vrai que le témoignage, comme tu nous apportes là aujourd'hui, c'est vrai que bon, bah, il y a aussi le revers. Ouais. On a vu qu'il y a eu des effets sur la créativité, sur
T'as
sur
des
tout
gens
ça.
À la télé, des journalistes là, qui présentent des émissions sur la drogue, qui sont défoncés en permanence, quoi. Des présentateurs qui étaient défoncés ou qui le sont. Donc, on sait qu'il y a une vaste hypocrisie aussi par rapport à ça, quoi.
D'accord.
Souvent, ils sont suivis médicalement, comme les grandes vedettes, enfin les grands du showbiz, quoi. Ils ont les moyens d'être suivis médicalement, donc ça limite les dégâts, quoi.
D'accord.
J'ai vu Mick Jagger là sur la couve de Télérama, le dernier Télérama, t'as l'impression qu'il a 18 piges, quoi. Tu sais ce qu'il s'est mis, lui.
C'est une autre drogue qui s'appelle Photoshop.
Ouais,
c'est ça le problème.
Est-ce qu'il y a d'autres témoignages?
Non, puisqu'on va faire de manière très, très extérieure, hein. Il y a une attente aussi du public à voir, dans le contexte des starifications, à voir les gens se brûler sur scène.
Oui.
Et c'est vrai que sans revenir sur Gainsbourg, mais tous les chanteurs que tu as pu évoquer tout de suite, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose ça va avec le star system, ça va avec l'idée que d'une certaine manière, ça irait avec, et c'est presque attendu en ce sens-là. Je me souviens qu'il y a eu des scandales d'exprimer par rapport à des consommations de produits de personnes lambda, et finalement, quand c'est, pour revenir sur les chanteurs français, hein, comment il s'appelle, Johnny Hallyday, qui exprime qu'il a consommé de la cocaïne, ça fait partie finalement du paysage. Donc c'est vraiment attendu de ce côté-là.
Oui, il y a des personnages qui se construisent aussi autour de Smith, de la star de rock droguée, hein, qui est né dans les années 60-70, quoi, finalement.
Mais en même temps, encore jusqu'à aujourd'hui, si on prend Amy Winehouse encore dernièrement, enfin, voilà, ça fait vraiment partie aussi
mais du folklore. Mais en même temps, comme disait Mireille, effectivement, quand t'es pris dans le rythme des tournées, faut que tu crées sans arrêt, je crois qu'il faut vraiment être balèze pour éviter de tomber là-dedans, quoi. Il y a une telle pression, quoi.
Je crois que Keith Richards, juste un dernier mot, se faisait aussi suivre dans les années 70. Il avait son toubib avec lui, hein.
Il se faisait changer le sang, même.
Il se faisait changer le sang, enfin, voilà. Donc,
les gens disent que régulièrement, il se faisait. On se faisait du sang neuf.
C'est vrai que si vous avez un avion médicalisé qui vous accompagne en tournée, vous risquez moins l'overdose ou en tout cas le décès. Donc il faut aussi avoir les moyens de la consommation. Et ça fait une sacrée différence entre les usagers de la rue et le star system, avec toutes les petites distinctions qu'il peut y avoir entre les deux, évidemment.
Bien sûr. Ouais, puis ce qui est dingue, c'est que le mythe perdure, en même temps, quand on voit Amy Winehouse, qui a fait la même chose, quoi. On se dit que ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Ça continue.
Et il faut dire que c'est une profession musicien où on est vraiment exposé aux drogues et même à l'alcool. Moi, je vois dans le milieu du jazz, bon, bah, à chaque fois qu'on est reçu, les gens
vont. T'as les cacahuètes, le champagne et le pirogue.
Et on y va. Et les musiciens de jazz dans les années 60 et début 70 se sont fait un tort énorme parce que les gars, dès qu'ils arrivaient, allaient à haut sur le bar et les organisateurs en avaient assez de voir les gars. Quand arrivait l'heure du concert, bah, ils étaient tous bien amâchés, éméchés, et puis bon, bah, ils se permettaient des réflexions souvent qui étaient désagréables pour le public, quoi.
D'accord.
Mais ça continue. Je vois hier, on a joué avec Jean, on a eu un concert hier soir, et ça va que ton est sobre, on boit pas, évidemment. Jean, il y a un doute. Et t'arrives, tu payes pas tes consos, quoi. Ouais. C'est gratos pour les icônes toujours. Donc, effectivement, c'est tentant, quoi.
Enfin, jusqu'à ce que Jean tombe de la scène, quand même.
Jusqu'à ce que Jean tombe de la scène.
Voilà. Ouais, ça contrebasse.
Heureusement, il est au ras du sol.
Bah, très bien, merci en tout cas pour vos témoignages. On va s'écouter un petit morceau de musique que Néné, tu vas pouvoir nous présenter.
Oui, alors moi, j'ai choisi TFN parce que j'aimais bien son univers à l'époque. Et bon, c'est pas méchant, les paroles, c'est pas violent, hein. C'est la fille du coupeur de joint. Et effectivement, bon, lui, il parle que de la paille, que de l'herbe. On sait qu'on commence tous par l'herbe. Après, on ne sait pas où ça s'arrête, quoi. Donc, je pense que c'était.
On reviendra sur la théorie d'escalade.
Oui, personnellement, je ne suis pas d'accord. Bon, là c'est pas méchant. Quand tu dis le texte, tu l'analyses un peu, c'est léger. Mais en même temps, c'est, voilà, ça commence par ça, quoi.
Eh ben, on s'écoute ça, TFN.
Chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ben nous on était cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur, en se disant qu'on se tapait bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ben voilà qu'elle nous prend par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin à toi, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Quand on eut passé la ferraille, elle nous fit fumer de sa travail. Sacré bon Dieu, que c'était bien. La fille du coupeur de joint. La fille du coupeur de joint. La fille du coupeur de joie. La fille du coupeur de joie. Une chanson de collégien. La fille du coupeur de joint. 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 La fille du coupeur de joint.
Donc la fille du coupeur de joint. Voilà. C'est cette chanson, Néné.
Oui, ouais, tout à fait.
Très bien, très belle chanson, oui, ouais, bien rythmée.
Oui, bien dans l'esprit de l'époque, quoi, hein, des arrangements, etc. On sent que ça a pris un petit coup de vieux, mais bon.
Ça fait plaisir, on se fait plaisir à l'écouter. Et oui. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est le but de cette émission.
Alors, pardon.
Ben voilà, juste... je voulais te donner la parole, alors prends-la, vas-y, si tu la veux, je te la donne.
Voilà, moi je voulais juste revenir sur la fameuse théorie de l'escalade, hein, comme quoi un pétard amène à consommer d'autres produits, c'est complètement erroné, hein, c'est pas une réalité. Voilà, après il y a des prédispositions qu'on va développer. Là, Mireille va expliquer, je vais l'accompagner dans ses explications. Il y a plusieurs prédispositions qui vont amener à consommer de la drogue. Mais voilà, les premières consommations, hein, puisqu'on est sur la France, les produits les plus consommés, c'est le tabac et l'alcool. Hein. Et on sait que la plupart des consommateurs de tabac et d'alcool ne vont pas forcément consommer d'autres produits non plus. Hein. Donc la théorie de l'escalade, elle n'est pas... Voilà, c'est pas parce qu'on commence à consommer un produit qu'on va forcément goûter tous les produits. Voilà.
Cette étude, elle avait été faite, en fait, au départ, dans les centres de toxicomanie, où on avait demandé aux gens quels produits ils avaient commencé en premier. Et comme là, on était dans un centre spécialisé en toxicomanie, évidemment, ils ont tous dit qu'ils avaient commencé par consommer du cannabis. Hein. Et donc, pour les gens qui étaient à l'époque héroïnomanes. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont consommé du cannabis vont forcément un jour passer à l'héroïne.
Et après, l'œil est pointé sur le cannabis parce que c'est un produit illégal. Hein. Et c'est aussi le produit le plus consommé en France, hein, sur le plan des produits illégaux, en fait. Voilà.
Et c'est pour ça que c'est très récent aussi cette appellation drogue associée à l'alcool ou au tabac. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est la question, c'était quelle est la première drogue que vous avez consommée. On n'aurait pas pensé une seule seconde mettre en avant l'alcool ou le tabac. Mmh. Alors que bien évidemment, si l'enquête avait été objective, c'est quel premier produit psychotrope avez-vous consommé, on aurait dit l'alcool. Donc on aurait justifié d'interdiction de l'alcool pour éviter l'escalade à l'héroïne, ce qui est assez stupide. Et on a assez, effectivement, avec l'alcool, voilà, pour tous les dégâts sanitaires, voilà, qu'on connaît. Ouais.
Et ça, souvent, hein, quand on parle de drogue, on omet complètement. Alors, ça commence à venir maintenant plus dans le vocabulaire des général, hein, mais on omet généralement l'alcool, alors que l'alcool est une drogue. Hein. Je rappelle qu'une drogue, c'est un produit qu'on va consommer, assimiler, hein, qui va monter jusqu'au cerveau et qui va entraîner une modification de nos comportements, d'accord ? Donc soit nous stimuler, soit nous anesthésier, soit déformer la réalité, voilà. Donc c'est vraiment, la drogue fait partie de ces produits-là.
On définit comme drogue, quoi.
Voilà.
Bien.
Et en fait, pour que quelqu'un devienne dépendant, hein, de ce qu'on appelle par la dépendance, ou l'addiction. On parle beaucoup d'addiction. Voilà, c'est moi qui ai glissé mon... Voilà. Alors, en fait, il y a le docteur Levenstein qui était connu dans les années 70 pour ses prises en charge des toxicomanes à l'hôpital Marmottan. Hein. Et donc, il avait déterminé trois éléments pour pouvoir entrer dans l'addiction. Donc, il fallait bien un individu, un produit et un moment particulier dans le contexte social. Hein. Et donc, il faut bien ces trois éléments pour qu'une personne puisse devenir dépendante. Et si on prend un seul élément, ça ne fait pas d'une personne un toxicomane. Hein. Donc, il faut d'abord le produit. Hein. Donc, c'est l'usage simple d'un produit. Ce n'est pas forcément une compulsion à reconsommer de ce produit-là. Il y a plein de gens, autour de vous, qui ont déjà consommé une fois de l'alcool ou du cannabis ou d'autres produits. Et ils ne sont pas devenus pour autant dépendants de ces produits-là. Donc le contexte social, on sait que dans chaque époque, il y a des consommations de produits différents. On l'a vu là au cours de nos émissions avec l'évolution des consommations. On est parti du cannabis, les consommations de cocaïne, d'héroïne, etc. LSD, de produits qui reviennent après, Donc, mais c'est pas parce qu'il y a ces produits-là qui existent au niveau de la société que forcément tout le monde va se mettre à consommer. Et puis,
il y a aussi un contexte familial, familial ou une histoire de la personne en tout cas, l'histoire de la personne.
Voilà. Hein, si on est dans des familles où il y a des consommations, c'est aussi plus facile le paysage.
C'est quand même assez lié, quoi. Ils sont...
Voilà. C'est pas forcément lié directement, mais ça peut être un point aussi.
Il y a un mode de fonctionnement.
Ma maman n'a jamais pris de drogue pourtant.
Non, mais c'est normal, ta maman, elle est directrice d'école, alors elle va pas prendre de drogue. Hein, voilà. Et puis, il y a l'individu. Voilà. Et donc, c'est quand même lui qui va être le facteur déterminant dans cette addiction. Hein, qui va, donc, suivant la consommation, il va basculer d'un côté ou de l'autre. On sait qu'il y a les névrosés, les psychoses. Et puis l'addiction, elle va s'infiltrer dans les failles ouvertes de notre psychisme.
Lacan sort de ce corps.
Lacan. Voilà. Et est-ce que la consommation de ces drogues, elle influe sur la création artistique? Alors, on peut dire oui un peu, évidemment. On a parlé tout à l'heure, par exemple, du LSD, où c'est évident que la prise de drogue a influé le paysage, en tout cas. Mais dans la mesure où, effectivement, la consommation de drogue peut influer, va libérer un peu les barrières que l'on peut avoir. Mmh. Hein. Mais bien évidemment, c'est l'individu qui est au centre de tout ça. Et puis, et le potentiel que chacun a en soi. Et donc, ce n'est pas les drogues qui vont faire qu'on va devenir un génie.
La création artistique, ce n'est pas quelque chose de spontané, comme ça, qui émane, comme ça, on se lève le matin et on a une idée merveilleuse. Il y a tout un acte de travail, d'élaboration, de recherche, de construction, d'essais, d'erreurs, c'est un vrai travail, quoi.
Mais c'est vrai que pour beaucoup des grands génies qu'on a pu avoir, c'était souvent des personnalités quand même assez borderline, quoi, un peu psychotique.
Pour des tas de sensibilité au monde, on avait parlé.
Très bien, les filles.
Quand on prend Charlie Parker,
vu ça au cours des émissions, on va pas les refaire, mais...
Voilà, c'est ça.
Ce qui me fait penser à un petit rappel, c'est que sur le site Principe Actif, vous pouvez revenir sur les émissions si vous découvrez aujourd'hui Drog'n'Roll, vous pouvez revenir sur ces émissions. Ils sont en podcast. À l'heure actuelle, je sais qu'il y a les trois premières qui ont été postées en podcast, mais...
Il n'y a pas les autres, ça ne va pas du tout, ça ne suit pas au niveau de la technique.
Voilà, il va y avoir les autres jusqu'à la fin de l'année, donc vous pourrez les voir ou les consulter selon le style musical que vous souhaitez ou pas. Donc voilà.
Très bien.
Tout ce que tu me dis me fait penser à une petite question pour nos très chers invités. Je voulais savoir, moi, dans ce contexte social actuel, est-ce qu'il y a plus de consommation que les années précédentes? C'est-à-dire, est-ce que dans vos entourages, mais dans ce que vous pouvez voir, est-ce qu'il y a, est-ce que vous voyez une consommation différente, peut-être de...
Moi, je connais beaucoup de gens qui fument, vraiment. Quasiment, qui prennent ça comme genre un peu le 10 jours du soir, tu vois, t'es chez toi, tu te détends et vraiment... Et
quand tu dis fume, c'est tout plus marijuana, cannabis.
Oui, voilà. D'accord. Tout cas social confondu, c'est aussi bien le mec qui bosse en usine que le jeune cadre dynamique. Et après, bon, il y a des spécialistes. Hein. Je pense que l'usage de la coke est vraiment répandu dans le milieu. Les gens qui bossent comme des dingues, quoi, qui n'ont pas le temps de se détendre. On sait que ça rend bien speed la coke. Donc, mais moi, je connais plein de gens qui fument vraiment. Et des jeunes, quoi. D'accord. Beaucoup de jeunes. Donc
c'est plus cette tendance, entre guillemets, oui, là, selon toi.
Oui, vraiment ce côté. Et les personnes un peu plus âgées, c'est plus le côté détente, quoi. On rentre chez soi, on se détend, on fume, on prend un linge, histoire de se détendre, quoi.
C'est ce qu'évoquait aussi peut-être Mireille là, sur la question, la question du moment de société dans lequel on se trouve. Je pense qu'il y a surtout des évolutions en termes de recherche de produits, de disponibilité de produits. Moi, j'ai le sentiment en tout cas qu'il n'y a pas forcément plus de drogues aujourd'hui. Par contre, elles font largement plus partie du paysage. Et comme tu le disais tout de suite très justement, la question de la cocaïne, des psychostimulants en général, on les trouve particulièrement aujourd'hui en termes de visibilité, d'accessibilité. Et c'est pas étonnant. On demande de la performance, de la réussite individuelle, surtout tant qu'à faire. Donc... et en gros sur une espèce d'injonction de ce type, c'est pas étonnant qu'il y ait des recherches en termes d'usage de produits psychostimulants. Et si on prend effectivement l'idée quand même, l'imagerie, c'est que la cocaïne est liée à la réussite sociale, est liée aussi aux paillettes et donc d'une certaine manière aussi au star system. Moi j'ai, sans donner de nom, hein, contrairement à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je pense que dans mon entourage, ça fait partie effectivement du paysage des entrepreneurs dans le bâtiment, consomment aussi de la cocaïne. Voilà, pas tous évidemment, ça reste
c'est pas des
quand même minoritaire, mais c'est quelque chose qui se développe en termes de visibilité, c'est certain.
Il y a énormément de milieux où ils prennent de la coke. Moi, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur les marins pêcheurs. Ils marchent tous à la coke, ils sont obligés, on leur en demande tellement, quoi. Au niveau de la performance, ils marchent à la coke, quoi. Surprenant quand même, on dit les marins pêcheurs.
Ouais, c'est sûr.
Par contre, l'alcool est en baisse, c'est net, hein, dans les nouvelles générations,
on n'est pas d'accord. Hein.
Ça boit différemment. Jean. C'est plus la même manière de boire. Avant, c'est beaucoup plus violent maintenant, je trouve. Ça va plus vite.
Prenons les musiciens, les artistes. Avant, tout le monde buvait, quoi. Maintenant, c'est fini. Ça devient rare, quoi.
C'est une question de génération, je pense, parce que les musiciens que tu côtoies, peut-être, ils deviennent plus vieux. Et donc, ils font plus attention à leur santé, je pense.
Ça, c'est
parce
moche.
Au niveau des statistiques générales, en dire, France, non, on reste quand même c'est parce que le premier consommateur au monde d'alcool.
Jean joue dans un groupe où sur quatre musiciens, il y en a deux qui ne boivent pas.
Avec des abstinents.
Et bien, avant, il y en avait. Tout le monde buvait avant. Jeunes et vieux, tout le monde.
Ça boit différemment maintenant.
Pour développer peut-être, aller dans le sens de Jean, je pense aussi qu'il y a une visibilité différente de l'alcool. Si on prend l'augmentation des consommations de cocaïne, on voit aussi que d'une certaine manière, quand on associe, c'est très fréquent l'association alcool-cocaïne. C'est très rare de consommer de la cocaïne et de pas associer ça à l'alcool. Déjà parce que ça potentialise les effets de la cocaïne, ça les fait aller dans la durée, plus importante. Et surtout, on n'a pas les effets résiduels de l'alcool. Donc vous avez des personnes qui consomment énormément d'alcool, qu'associent avec la cocaïne, mais il n'y a pas de visibilité des effets résiduels, en gros d'état d'ébriété de l'alcool. Sauf bien sûr quand la consommation de cocaïne s'arrête. Hein. Et puis alors, les dégâts, pour rappeler et de rentrer dans le politiquement correct d'introduction de Mireille Clouzot, les dégâts sont quand même beaucoup plus importants en termes quand on s'est associé à ce type de produit. Ouais.
Alors en fait, les drogues, elles ont toujours existé à travers toutes les cultures, tous les siècles. Il y a toujours eu des consommations de drogues. Après, les contextes sont différents aussi. Donc à une période, c'est beaucoup plus ritualisé, beaucoup plus dans une convention bien précise.
Ce qui a changé,
c'est peut-être la façon de consommer, les motivations à la consommation. Et on est aussi dans une société aussi où c'est une société de consommation, où il y a de plus en plus de produits disponibles à tous les niveaux. Et évidemment, les drogues, elles suivent aussi cette ouverture, en fait.
Okay. Voilà. Donc, qu'il y a quand même un changement, malgré tout, sur les années antérieures.
Je sais pas s'il y a il y a forcément un changement, les choses échangent de toute façon, donc il y a forcément un changement, mais en tout cas l'accessibilité, il y a une disponibilité plus large des produits, et puis surtout les motivations sont pas les mêmes, et puis il y a un rapport au temps aussi qui est modifié, où on disait le stress, le temps où il y a une résistance à la frustration qui est beaucoup moins grande, en fait, où on doit avoir accès à tout rapidement. Les exigences sont rapides aussi, et du coup il faut trouver aussi des moyens d'apaiser ce temps et ce rapport au temps et ces exigences là et donc il y a différentes façons de trouver la solution des drogues, elle est rapide, voilà. Donc c'est plus facile de boire un verre et de se défoncer rapidement avec l'alcool que de faire du sport ou de créer.
C'est plus facile, on va dire, pour les
payants,
on va dire.
C'est surtout plus rapide.
D'accord. On finit sur...
Oui, enfin, dans le sens de Florent, c'est comment dire, enfin, il y a un côté bouton on/off. Mmh. Voilà, en gros, j'ai des produits que je vais utiliser dans un contexte particulier, de performance par exemple, un autre qui va me coucher, qui va me calmer, m'apaiser, me mettre à distance justement de cette pression-là. Et pour aller dans le sens de Florence surtout, en termes d'injonction de société, en termes de publicité notamment, c'est en gros le slogan, les slogans en général, c'est consommer, essayez, vous ne pourrez plus vous en passer. Les slogans de la prévention, c'est surtout ne commencez pas, vous ne pourrez plus vous en passer. Dans ce paradoxe-là, chacun fait ses essais, erreurs et choisit les outils qui sont à sa disposition. Et les drogues en font partie, on le voit dans le sport, c'est pas le sujet de l'émission ici, mais on voit aussi que ça permet d'accroître les performances et parfois de résister plus à la douleur. C'est pas forcément le côté manichéen, tricher ou pas, enfin c'est beaucoup plus subtil que ça.
En même temps, c'est aussi quand même le constat qu'il y a un réel problème, quoi. On en soit arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi.
Je crois que
de riches, quoi, d'occidentaux, qu'on ait besoin de ça, c'est quand même pas normal, quoi.
On est sur un moment de société où c'est pas un moment de grâce, hein, oui. En particulier. Enfin, je crois que voilà, c'est quelque chose de très, oui, tout à fait, bien sûr.
Entre le monde qui sniffe de la colle parce qu'il a rien à manger et puis ça va lui permettre d'oublier les douleurs qu'il a à l'estomac et nous, nos problèmes d'occidentaux qu'on n'arrive pas à régler. Et on se défonce, il y a quand même aussi faire la part des choses. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr. Dis-moi, et après on va s'arrêter sur cette question.
Voilà, c'était juste que ça fait une très bonne introduction pour la petite chronique de Jean-Paul. Mais peut-être tu voulais passer un petit morceau avant ?
Je pense, histoire de digérer toute cette parole.
Mais du coup, on va rebondir sur ce qui a été dit là pour introduire la chronique de Jean-Paul après.
Eh bien, c'est très bien. Yann, on t'entend pas beaucoup.
Non,
Yann.
mais parce que c'est très intéressant tout ce qui est dit là et je n'ai pas grand chose à ajouter. Si ce n'est que, est-ce qu'on va passer un morceau?
Exactement, c'est pour ça que je te donne la parole. Et je te piège.
Alors on va écouter. Les gens sont fous, les temps sont flous, donc je pense que c'est à plutôt à propos par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est une chanson donc interprétée par Jacques Dutronc en 1966 et écrite par Jacques Lanzmann, son fidèle parolier. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté.
On s'écoute ça de suite.
Les gens prennent tout, les temps sont sous ça, les prend comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un mermidou, d'un grand bichou. Qui flambe vite comme Amadou. Les gens sont fous, les temps sont fous, les temps sont fous, les gens sont fous. Yo-yo ou la hobby Scooby-Doo, porte-clé et porte-chou.
Les temps sont fous. Les temps.
Réveillez la mémoire de l'histoire dans
la chronique éclectique de Jean-Paul.
L'action des stupéfiants est à ce point appréciée et reconnue comme tel bienfait dans la lutte pour assurer le bonheur ou éloigner la misère, que des individus et même des peuples entiers leur ont réservé une place permanente dans l'économie de leur libido. On ne leur doit pas seulement une jouissance immédiate, mais aussi un degré d'indépendance ardemment souhaité à l'égard du monde extérieur. On sait qu'à l'aide du briseur de soucis, l'on peut à chaque instant se soustraire au fardeau de la réalité et se réfugier dans un monde à soi qui réserve de meilleures conditions à sa sensibilité.
Propos de stars, articles, anecdotes, on vous dit tout dans
la chronique
éclectique de Jean-Paul.
Voilà, donc cette petite chronique, en fait, c'était extrait comment d'un livre de Sigmund Freud qui a quand même été écrit en 1930 et qui s'appelait « Le malaise dans la civilisation ». Donc on peut voir que là, tout à l'heure, on parlait de malaise dans la société actuellement. La chanson de Dutronc, c'était en 1966. Et là, même en 1930, on parlait déjà de malaise dans la société. Et donc Freud lui disait que pour effectivement la vie était trop dure pour les gens et que pour la supporter, on avait recours à trois sortes de remèdes. C'était soit on faisait des recherches dans la science et tout ça. Du coup, ça faisait travailler les neurones là et on pensait à l'avenir, etc. Soit effectivement, il y a ce qu'on parle. On parle de sublimation, mais donc on va vers les arts créatifs, alors que ce soit la peinture, l'écriture, la musique, etc. Et puis, la troisième possibilité, ce sont les stupéfiants qui nous rendent insensibles à la misère, ce que disait Freud. Et donc, on va expérimenter tout un tas de drogues, suivant ce qu'on trouve, là où on est, etc. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Florence, qu'elle puisse un peu nous parler de ce qui se passe actuellement au niveau de
la prise en charge.
Prise en charge, prévention, etc.
Juste un petit rappel historique là sur la prévention qui est née dans les années 70, alors notamment aux États-Unis, qui était issu du milieu festif déjà, où c'était généralement les bénévoles qui tenaient des stands de prévention et de premiers soins, notamment je pense au mouvement hippie et à tous les mouvements de festivals qu'il y a eu à cette période-là aussi. Donc les infos de prévention, elles étaient diffusées et centrées sur les risques des produits déjà à l'époque aussi. La continuité de nos jours,
C'était juste par exemple un petit rappel pour ceux qui ont vu le film là sur Woodstock. Il y avait des annonces qui étaient faites au micro sur la circulation des produits, de dire attention, ce produit-là, il est dangereux, etc. Donc c'était les premières préventions, la réduction des risques en milieu festif, n'est-ce pas Grégory?
Oui, quand on arrive à Woodstock, j'aurais bien voulu voir.
Il faisait des annonces, en tout cas, sur la dangerosité des produits.
Oui, c'est un peu empêcher les accouchements, sous drogue aussi. Enfin, ça devait être sympathique. Oui.
C'était un grand village.
C'était pour évoluer aussi sur la continuité de nos jours de la prévention en milieu festif, qui se fait aussi beaucoup par des associations de bénévoles et même de salariés maintenant aussi. Je pense à des associations comme Technoplus, Préventeuf, bien sûr.
Médecins du Monde.
Médecins du Monde aussi, voilà. Donc les nombreuses campagnes de prévention en France ont été faites. Il y a les slogans dont tout le monde se rappelle. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. C'est ce genre de choses. Ça, c'est apparu en 1984. La drogue, c'est de la merde. Le cannabis est une réalité en 2005. Drogue, ne fermons pas les yeux en 2009. Et puis l'envers du décor, en 2012, et contre les drogues, chacun peut agir en 2013. Voilà, c'est les derniers.
Peut-être avec un résultat très très mitigé, peut-être en termes de moyens aussi, parce que arriver à dépenser quelques millions peut-être, je sais pas, pour trouver le slogan la drogue c'est de la merde, c'est un peu pathétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, et c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement quand même qu'il y a des associations militantes, heureusement qu'il y a des usagers surtout qui s'informent, qui s'intéressent. Personne ne souhaite mourir d'une overdose, personne ne prend de l'ecstasy pour pour finir aux urgences le lundi matin. Et à partir de là, heureusement qu'il y a aussi des discours objectifs qu'on arrive à trouver à l'extérieur. C'est, j'entends, enfin, les secondes préventions en question sont dans l'imagerie aussi collective des usagers comme étant totalement risibles, malheureusement.
En tout cas, c'est des grands slogans au grand public. Enfin, qu'il faut faire au grand public. Voilà.
Donc en gros, on a l'usage qu'on mérite aussi en France. Hein, quand on voit cette distinction de moyens phénoménaux entre la justice, la répression, l'incarcération, les flashballs, qu'on va avoir avec la lutte contre la toxicomanie en général, et le versant ridicule en proportion d'argent alloué à la prévention. Et on arrive à des slogans comme « la drogue, c'est de la merde » et « dont l'est à trouver la force de dire non » et « gna 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 ».
Est-ce que...
Bravo.
Est-ce que... il parle bien. C'est pour ça qu'il est là. En fait.
Donc, nous, voilà, par rapport à travers les émissions, là, évidemment, on a pu parler de l'histoire de la musique et la place des produits dans l'histoire de cette musique et dans les mouvements musicaux. Il y a aussi, par rapport à notre travail, en fait, on travaille plus sur la question de la place du produit chez la personne. Hein, donc, et c'est vraiment là-dessus, en fait, qu'il faut insister. C'est si on décide de consommer, hein, on n'est pas obligé de consommer, mais si on décide, on peut poser la question du choix à un moment donné aussi, hein, il y a des pressions sociales aussi, mais si on décide de consommer, comment on consomme, quel type de consommateur on est, avec quels risques, et puis comment on diminue ces risques-là sur notre santé, sur notre entourage, parce que ça a forcément un impact sur notre entourage. Hein. Donc c'est plus cette question-là qui est importante en fait, pour nous.
Donc il existe des associations comme le CARUD par exemple, hein, qui est un centre d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques, où on reçoit des usagers de produits, on peut leur donner des informations objectives et où peuvent venir chercher ce qu'on appelle les outils de réduction des risques, c'est-à-dire les seringues stériles par exemple et tout le matériel autour des consommations. Et l'idée étant de...
Accompagner, quoi.
Voilà, de pouvoir discuter avec eux de leur consommation et puis de les accompagner éventuellement vers le soin, si c'est leur souhait.
Puis la question aussi, c'est susciter la rencontre, c'est se poser, c'est ne pas juger, surtout. Et c'est vrai que cet accueil-là, sans exigence forcée qui soit celle de la demande liée à l'arrêt, à l'abstinence, ça permet véritablement une rencontre et s'intéresser à la personne. Et la question n'est pas de savoir s'il faut qu'elle arrête ou pas les produits. La question, c'est de soutenir le fait qu'elle aille mieux, qu'elle se sente bien, en vie. Ça me fait penser à la lettre au législateur de Antonin Artaud, qui en final dit, en gros, avale ta loi. Voilà. Et qu'en gros, on aurait, pour résumer, j'ai pas les termes exacts, hein, on n'a pas le droit d'interdire ce qui permet à l'humain de rester vivant ou rester debout.
Ok. Je pense que ça fait office.
Excusez-moi, j'ai dérapé.
De conclusion. Mais
on m'avait dit de ne pas parler de mes.
Je peux rappeler qu'effectivement, il y a quelques infos sur la page du site Principe Actif, sur notre page Drug and Roll. Je ne fais pas de pub, mais effectivement, ça peut être. Si ça a été trop vite pour vous, voilà, il y a effectivement ces infos-là qui peuvent se retrouver un peu sur la page. Il y a aussi les podcasts, vu que l'émission va être podcastée, on va dire, pourra être réécoutée. Et voilà, si vous voulez avoir ces informations.
Et donc, il y a quand même quelques associations départementales, hein, où il y a on peut aider les gens à prendre en compte leur consommation, s'ils souhaitent arrêter, avoir un accompagnement, etc. Donc, il y a l'association nationale de prévention de l'alcoolisme et en addictologie. Il y a le ADISA, l'association départementale d'insertion santé et de soins des addictions. Il y a le XAPA de l'abri, il y a le centre d'addictologie dans tous les hôpitaux. Hein. Donc il y a un certain nombre d'associations où on peut trouver de l'aide pour mettre entre parenthèses ces consommations.
Très bien. Pour finir sur une touche musicale.
Grégory qui a toussé.
Finir sur une touche musicale, le rapport dans la musique. Revoir le film Woodstock, la prestation d'Hendrix, celle de Joe Cocker et celle de Carlos Santana, tout est dit.
Parfait. Je vous propose de s'écouter un petit morceau de musique. Il va nous rester 6 petites minutes pour nous dire au revoir et puis nous dire au revoir, tout simplement. Je propose de passer ton morceau, Florence.
Ouais. Alors, j'en parle après ou j'en parle maintenant? Donc, moi, j'ai choisi...
On ne parle pas. Je pense pas parce qu'il y a 6 minutes. dis-moi deux petits mots.
Je voulais juste introduire ce petit morceau-là. Donc, c'est un morceau, pardon, de Parabellum. Du coup, je ne vais pas arriver à parler. De Parabellum, en fait, qui est un groupe punk français des années 80. Le nom, en fait, vient d'une citation latine qui dit « Si vis pacem parabellum », j'espère que je parle bien latin, « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Voilà, c'était leur parolier, hein, qui avait ce titre-là.
T'es en pleine guérilla, Florence, là.
Peut-être. C'est des mouvements.
C'est ça.
C'est des mouvements.
Parabellum.
Dans le port d'Amsterdam, capitaine qui se calme, qui se shootait, qui se re-shoot, les bras couverts de croûte. Dans le port d'Amsterdam, y'a des junkies qui coulent, pour des trafics pas cool, pour des histoires de crap. Des grosses pompes en béton, des entrées vers le fond. Pour avoir leur héros et se battre à coups de lame. Toutes les rues d'Amsterdam sont couvertes de seringues. C'est une vie pour éteindre. Bombardons Amsterdam, ceux qui chantent Amsterdam sont fichés au nez. Les rabouins du Japon, les chauffeurs Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y'a une ambiance de mort. C'est pire à tous les temps.
Donc oui, c'est moi qui me lèche, j'enchaîne, hein, c'est bon. J'avais tout compris, ouais. Donc le titre de cette chanson, c'est Hello Amsterdam. Donc on a reconnu que c'était une reprise en fait de l'Amsterdam de Jacques Brel. Donc Jacques Brel fait référence aux marins hein, qui se défoncent, qui boivent. Hein, et là, c'est plutôt aux drogués en fait d'Amsterdam là. En fait, c'est un petit hommage aussi voilà, personnel et puis aussi par rapport à Schulz, hein, le chanteur qui vient de décéder là en début de semaine.
Oh. Mm. Bah, c'est bien triste parce que tu finis l'émission sur une triste nouvelle comme ça. Bah...
Mais la chanson est péchue, donc voilà.
Et bah, ça marche, ça nous a effectivement reboosté. Effectivement, je l'ai dit avant, cette musique, il va nous rester très peu de temps pour conclure cette émission. Mais en tout cas, pour ma part, moi, j'étais ravi d'être avec vous, d'avoir partagé ces émissions. J'ai appris énormément de choses sur ces fameuses consommations de drogue.
Nous aussi. Donc,
c'est une manière aussi de te remercier, Mireille, d'avoir fait cette émission. Et,
bah heureusement que tu étais là, hein, parce que sinon...
Ouais, bah, on va se jeter des fleurs, mais voilà, en tout cas, merci beaucoup.
Et à tous les invités qui ont aussi aidé à construire cette émission. Et...
Complètement. Je vous propose, on fait un petit tour de micro, et puis... Chacun dit son petit mot, ce qu'il a envie de dire. Bonjour, au revoir, redire une anecdote, je sais pas. Il nous reste 3 minutes, 2 minutes même pas.
Bah, au revoir à tous et merci à Mireille pour son émission.
Merci Jean-Paul pour tes chroniques en tout cas.
Néné. Bah, Mimi, merci à toi, hein. Comme d'hab, royal, quoi. La grande classe, quoi. Bravo. Et ce soir, nous avons 2 concerts, donc
bien sûr,
toute sobriété. Hein. On va traverser le département, mais on va être clean de chez clean.
C'est
quoi.
Un test.
Rappelle-nous ton petit groupe. Ton groupe, pardon.
Sacha et les Swing Yajo, du très jazz bien. Manouche, et avec Monsieur Jean qui est à ma gauche. Et donc ce soir, on a 2 concerts, donc on se tape la traversée du département, mais pas d'alcool, pas de drogue, rien. Quoi.
Une tournée nickel, internationale.
Pro. Tournée internationale qui commence. Avec modération, ouais.
Jean, merci.
Eh bien, bravo, merci Jérémy, et bravo Mireille. Hein, ah oui.
Pour non, mais le melon, c'est pas trop de fleurs.
Très bonne organisation et tout. J'espère qu'on te réentendra sur Principe Actif. Ouais, hein. Pour d'autres émissions, peut-être sur le cinéma, des choses comme ça. Je sais que ça te passionne beaucoup.
Éventuellement.
Tu sais que France Inter, on fait sa grille, Mimi. Hein.
Voilà, c'est jamais ça. Posture, je vais y penser. Je vais bientôt être disponible.
Greg.
Bah merci. Bah, merci à Mireille, bien sûr, hein, forcément. Voilà. Merci à Principe Actif aussi, surtout. Enfin aussi, bien sûr. Excellente radio, au titre évocateur. Enfin voilà, quoi. Longue vie à vous tous. Ouais.
Merci. Mireille, on va peut-être laisser la place à Florence. Tu vas prendre le mot de la fin, bien évidemment.
Ouais. Alors, bah, moi, je vais dire merci aussi à Mireille, ma collègue que je côtoie au quotidien, voilà, et qui m'emmène aussi sur des routes. Sortent du quotidien.
C'est la déroute totale.
Pas des déroutes, des déroutes qui me sortent du quotidien. Voilà. C'était un très bon moment en tout cas.
Merci à toi pour ces interventions.
Et bah merci à Mireille et Florence pour l'invitation à ces émissions passionnantes. Voilà, ravi. Longue vie à Principe Actif. Et voilà.
Merci.
Le mot de la
toi.
Fin, Mireille.
Et oui.
Voilà, c'est très dur là. Alors hein, après tous ces compliments, voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir été là parce que sans vous, ça rien n'aurait pu se faire. C'est parce que moi, je gribouille un peu, voilà, sur mes feuilles et voilà, on fait des recherches. Donc, mais après, faut passer à l'action et voilà, vous étiez tous là pour ça et donc là, c'était très bien. Donc, merci à vous tous, en tout cas. Et en particulier à Jérémy, ouais. Voilà, qui a
merci
animé
à tout,
tout ça.
Au revoir.
Good morning, Everett. Time for Drug and Roll.
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 Oh yeah, Drug and Roll.
L'émission stupéfiante sur la fusion de la musique et des consommations de drogue.